France Inter.
France Inter. Le téléphone sonne. Charlotte Piret.
Il y a quelques années, peut-être entre 7 et 10 ans, m'est venue l'idée de créer le livre des recettes de ma grand-mère, son potage au cresson, ses gaufres moelleux, ses plats en sauce qu'elle réussissait si bien. Je les aurais annotés, agrémentés de ses anecdotes, conseils, souvenirs liés à ses petits plats, sorte de biographie culinaire en somme, voilà, biographie, le mot est lâché. Moi, j'ai laissé traîner l'idée et son cancer m'a doublé, mais d'autres, beaucoup d'autres même, ont au contraire réalisé un tel projet, celui de recueillir les mémoires d'un proche, grand-parent ou arrière, mère ou père. Ces biographies de vies ordinaires qui viennent ancrer pour toute la famille la vie de l'un de ses membres. Alors pourquoi, comment et avec quelles conséquences? C'est ce que nous allons explorer avec vous ce soir jusqu'à 20h. Dans le pourquoi, on mettra peut-être la volonté de transmettre, de lutter contre l'oubli. N'existe-t-il pas ce proverbe africain selon lequel lorsqu'une personne âgée disparaît, c'est une bibliothèque qui part en fumée? Lutter contre une forme de vacuité de l'instantané aussi. La biographie de Tante Jacqueline n'est-elle pas l'anti-story Instagram par excellence? Dans le comment, on verra sans doute, le champ des possibles est immense, du recours à un écrivain privé à la réalisation de votre propre documentaire biographique en passant par la pléthore d'offres d'applis, coffrets et autres coffre-forts numérisés. Quant aux conséquences, venez nous dire si rédiger les mémoires de votre grand-oncle a été source de révélations, si enregistrer vos conversations avec votre mère a aussi libéré la parole de son frère, car outre la valorisation d'une vie a priori ordinaire, ces biographies familiales ne sont-elles pas aussi l'occasion de dénouer certains fils, de mettre en mots certaines cicatrices. D'ailleurs, si, ainsi que je l'ai lu sur le site d'un écrivain privé, si toutes les vies méritent d'être racontées, y compris celle de votre grand-mère, ce n'est pas une insulte que de dire que toute la vie de votre dite grand-mère ne le mérite pas en revanche. Alors comment fait-on le tri? Qu'est-ce qu'on y met dans ces biographies? Ça aussi, on va le découvrir ensemble. Venez nous dire si, comme 60% des seniors, vous aimeriez laisser une trace de votre histoire. Si écrire la biographie d'un proche vous semble important avant qu'il ne disparaisse, ou demander à nos invités comment procéder et par où commencer pour recueillir ses mémoires familiales. Pour tout cela, un seul numéro par téléphone ou WhatsApp, 01 45 24 7000. C'est le téléphone sonne, vous et votre famille, vous êtes les bienvenus.
Le téléphone sonne, 01 45 24 7000.
Et pour débuter cette émission, nous accueillons Yvette. Bonsoir Yvette.
Bonsoir madame.
Vous êtes la bienvenue, on vous écoute.
Oui, alors je voulais témoigner parce que j'ai écrit un livre sur ma maman, parce que je voulais vraiment, c'était dans l'ordre de la transmission, mais c'est aussi parce que c'était, je trouve, une femme moderne par rapport à son temps, qui a vécu, elle est née en 1918, elle a vécu dans un milieu rural, et à l'âge de 12 ans, elle a été gagée. Donc c'est vrai que quand je dis à mes petites filles qu'elle a été gagée, elles ne savent pas du tout à quoi ça correspond, et encore moins le travail qu'elle pouvait faire dans une ferme.
Et comment et vous avez procédé alors pour recueillir pour écrire ce livre?
Ben en fait, je l'ai écrit pratiquement 10 ans après son décès, parce que j'avais commencé un petit peu à écrire quand elle aurait eu ses 100 ans. Et en fait, quand j'ai commencé à écrire, je me disais, ben non, je vais pas pouvoir faire que quelques feuilles, parce que je voulais faire que quelques feuilles, c'est tout comme ça. Et puis après, je me dis, ben non, mais moi, c'est un livre que je vais faire. Et en fait, j'ai beaucoup, beaucoup échangé avec ma maman. Et en fait, il y a plein de choses qui me revenaient en mémoire et que j'ai voulu transmettre à travers le livre.
Est-ce que ça a été un exercice agréable pour vous à faire, ça? Vous avez pris du plaisir à écrire, oui?
Tout à fait. Et c'est vrai qu'il y a eu la Covid, et donc je me suis dit, ben là, j'ai un espace-temps merveilleux pour pouvoir écrire le livre. Donc c'est là que je me suis mise à l'écrire.
Et alors, ceux qui l'ont lu, ce livre, qu'en ont-ils pensé?
Ils ont beaucoup aimé, parce que c'est un livre quand même assez chaleureux. C'est vrai que maman était quand même c'était une personne très chaleureuse, très déterminée, qui ne s'apesantait pas sur ses féministes, féministes même pour la période dans laquelle elle a vécu, qui était vraiment, pourtant elle a vécu dans une période où elle était un peu sous la domination de l'Église chrétienne, mais elle s'en dédouanait quand même assez facilement, même si elle respectait les règles de l'Église. Et puis, elle a eu aussi beaucoup d'interventions chirurgicales, dont elle fait toujours... c'est une personne vraiment autonome malgré sa dépendance.
Mmh. Merci beaucoup Yvette pour votre témoignage. Je vous propose qu'on accueille ensemble nos invités de ce soir. Isabelle Millet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes biographe, vous avez été journaliste pendant 35 ans avant de changer de cap. Anis Harami, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste également et vous avez notamment été l'autrice du podcast Papa, t'es né quand, qui est diffusé sur Arte Radio. Et nous sommes en ligne avec Elsa Ramos, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, entre spécialiste de la famille, maîtresse de conférence à l'université Paris-Cité, et puis vous êtes l'autrice de Un anthropologue dans la famille, mener une enquête dont vos grands-parents sont les héros. C'est paru chez Buchet-Castel et c'est un véritable manuel technique sur comment réaliser une biographie, nous le verrons avec vous. Peut-être Isabelle Millet, tout d'abord sur le témoignage d'Yvette, effectivement, on est exactement dans l'esprit de la biographie familiale, dans ce qu'elle nous raconte.
Oui, oui, tout à fait. Bravo d'ailleurs Yvette d'avoir écrit la vie de votre maman. Peut-être avez-vous à un moment eu le regret de ne pas l'avoir fait de son vivant, ce qui vous aurait permis d'avoir des questions et des réponses surtout, mais c'est déjà formidable et je ne peux qu'encourager ce genre de démarche.
Vous le faites pour d'autres personnes, c'est devenu votre métier. Oui. Malgré tout, on peut le faire soi-même. Comment, en fait, on peut s'en emparer un petit peu comme on veut de la biographie d'un proche?
Oui, tout à fait, on peut le faire soi-même, bien évidemment. On peut aller rencontrer sa grand-mère, lui dire, tiens, j'ai envie d'écrire ta vie, parle-moi de toi. On peut partager des moments avec elle, on peut aller faire une tarte aux pommes avec elle et en profiter pour lui poser des questions. Je ne peux qu'encourager tous les auditeurs à faire cela. Pour moi, c'est le plus merveilleux des échanges. Et ensuite, le coucher sur le papier et l'enregistrer, c'est déjà une très belle démarche. Après, on peut aussi faire appel à un ou une biographe pour peut-être aller chercher des réponses un peu plus précises. La biographe va peut-être pouvoir poser des questions un peu plus avec sensibilité et avec détachement, parce que moi je ne connais pas les personnes que je vais rencontrer, donc j'ai moins d'affect et elles ont moins aussi la peur peut-être de me blesser. Quand on parle à son enfant, à son petit enfant, on peut se dire non, cette anecdote je ne vais pas lui raconter, peut-être qu'il va mal la comprendre, voilà.
Donc moi, le tiers, ça permet parfois d'apaiser un petit peu, on sait, dans n'importe quelle conversation on se confie parfois plus facilement à un inconnu qu'à nos plus proches, c'est aussi cette réalité-là en fait.
Exactement, et ça facilite souvent la démarche parce que il y a certaines personnes qui me disent ah, vous savez Isabelle, j'ai vécu quelque chose de très grave, j'ai une idée, c'est pas très gai pour commencer cette émission, mais j'ai une dame qui m'a raconté qu'un jour elle a fait une fausse couche, et elle m'a dit bon mais ça c'est du off, comme quand on est journaliste, on vous dit ça, je vous le gardais pour vous. Et je lui ai dit, elle s'appelait Sylvie, je lui ai dit Sylvie, vous êtes vraiment certaine que c'est du off? Vous avez 3 filles, vous avez 7 petites filles, elles vont lire ce livre, elles le liront quand vous serez encore là pour en parler avec elles, peut-être qu'un jour, malheureusement, il leur arrivera également ce drame de perdre un enfant, et peut-être que ça serait l'occasion d'en parler avec elle. Voilà. Je pense que si elle avait été interrogée par sa fille, par exemple, elle n'aurait certainement pas osé franchir ce pas. Elle m'a dit « Je comprends, je vais en parler ». On en a parlé de façon extrêmement sobre, mais ça permet ensuite d'ouvrir la parole.
Elsa Ramos, sur ce fait, c'est le fait d'aller aussi oser poser les questions, c'est pas toujours facile de se tourner vers son parent, son grand-parent, pour oser aller dénouer les fils de l'histoire familiale. C'est quand même un exercice assez délicat, en somme.
Alors oui, c'est délicat aussi dans le sens où on s'apprête à découvrir une personne. Donc on connaît son grand-père, sa grand-mère, sa mère, son père. Mais là, c'est l'histoire d'une personne qui peut ne pas nous être connue. Donc qui devient d'une certaine manière aussi une personne étrangère. Donc je pense qu'il y a une facilité dans la familiarité, dans la proximité affective, dans la connaissance de la personne, mais que parfois, quand on se pose comme observateur, ça peut être déroutant parce qu'il va y avoir une forme d'étrangeté de l'identité, d'une certaine manière, de cette personne familière habituellement.
Anis Harami, vous avez donc réalisé un podcast sur votre papa qui démarre avec une question autour de sa date de naissance, parce qu'en fait il ne connaît pas sa date de naissance réelle, on lui a attribué une date de naissance à son arrivée en France, et puis en fait vous allez découvrir plein de choses que vous ignoriez sur lui et puis sur votre histoire familiale un peu plus large finalement.
Oui, c'est ça. En fait, dans cette enquête, je tombe vraiment sur plein de choses auxquelles je ne m'attendais pas. Et je pense qu'à chaque fois qu'on ouvre une page, qu'on creuse quelque part, on tombe sur des choses où on se dit « mais je ne savais pas que ça, c'était arrivé dans ma famille ». En fait, on trouve aussi d'autres questions. À la base, moi, mon père, je voulais raconter sa vie parce que c'était un militant au Maroc. Et, mais je ne savais pas comment, parce qu'il y avait plein, il y a plein d'angles différents. Lui, je voyais qu'en vieillissant, il avait aussi envie de la raconter. Et quand j'ai trouvé cet angle, il m'a dit « mais en fait, j'ai envie de trouver ma date de naissance ». Je me suis dit, ça, c'est quand même, ça a l'air exceptionnel. Et en même temps, c'est le cas pour beaucoup d'immigrés. Et donc, je me suis dit, ça va être une histoire commune qui va parler à plein de gens. Et en fait, en creusant, on parle du coup de ma grand-mère. On parle de ce qui est perdu, de ce qui reste, selon aussi le genre, le temps, etc. Et donc, je pense qu'il y a plein de choses qui ont été découvertes. Et aussi sur moi, du coup, mon rapport à ma grand-mère, où par exemple, je donne toujours son deuxième prénom. Je porte son deuxième prénom. Et en fait, je comprends quand je fais le podcast que je lui ressemble beaucoup. Mmh. Et je me dis, je voulais parler de mon père et au final, je parle de ma grand-mère et je parle de moi. Et je pense que ça, c'est intéressant quand on creuse de trouver aussi des choses sur nous, finalement.
Mais quand on creuse, parce que dans votre podcast, il y a aussi des moments où vous allez un peu les pousser, finalement, vos proches. Votre père, il se referme, il n'a pas très envie d'y aller, etc. C'est aussi ça, d'oser aller un peu là où gratter les cicatrices, quoi, d'une certaine façon.
Oui, c'est clair. Et je pense que, justement, le fait d'avoir un médium, le fait d'avoir un livre ou un podcast ou un film, ça permet de forcer un peu ce truc-là. Parce que quand moi, j'ai eu cette envie d'interroger mon père, je l'avais déjà fait avec un Zoom seul, sans projet. Et en fait, le fait d'avoir un projet derrière, je dis, maintenant, on a d'autres gens qui nous attendent. Et donc, ça permet de poser des questions que sinon, j'aurais peut-être arrêté en disant, bon, là, il est un peu gêné. Mais là, ça permet d'aller plus loin et je trouve que c'est plus facile. Il y a plein de questions qu'on n'ose jamais poser à nos parents, à nos grands-parents ou à nos frères et sœurs, etc. Et je pense que le fait d'avoir un projet, ça fait que toute la famille, même ma mère, elle était à fond, elle m'aidait à pousser mon père, etc. Donc, c'était vraiment un projet commun. Et maintenant, mon père, quand il écoute, il est vraiment émue et toute la famille est émue que ça existe. Mais c'est vrai que ouais, s'il pouvait, à des moments, il était un peu fatigué de le faire. Des fois, fallait le pousser un peu, c'est sûr.
Michel nous attend au standard. Bonsoir, Michel.
Bonsoir.
On vous écoute.
Eh bien, voilà, moi, je suis originaire d'Algérie. Je suis pied noir. J'ai 78 ans. Et j'ai quitté l'Algérie quand j'avais 15 ans, à l'indépendance de ce pays. Et j'ai toujours dans la tête mon pays, bien sûr, et j'en parle beaucoup à mes enfants. J'en ai toujours beaucoup parlé à mes enfants, je fais de la cuisine algérienne, hein, voilà. Et puis je me suis dit quand même, tout ça, ça va partir, plus personne ne va s'en souvenir. Et j'ai fait bien sûr la généalogie de tous mes ancêtres qui arrivaient d'Alsace, de région parisienne, il y a 160 ans, bien sûr, et de Malte, d'Italie, ils arrivaient de partout. Et finalement, je suis en train de finir un petit recueil comme ça, où j'écris leur vie, tout ce que je peux savoir de leur vie, tout ce que je peux savoir des anecdotes aussi, et des lieux de mon enfance, et des lieux que mes ancêtres ont fréquentés. Et je trouve que pour des enfants qui sont nés de parents qui n'étaient pas à l'étranger, bien sûr, qui étaient français, l'Algérie était française, je pense que ça doit être bon pour eux de savoir d'où ils viennent tout de même. Hein, parce que c'est très difficile, je pense, de pas pouvoir mettre des lieux sur les anecdotes que l'on vous raconte, sur l'histoire de votre famille. Voilà, c'est tout.
Merci beaucoup pour ce témoignage, Michel. Elsa Ramos, effectivement, savoir d'où ils viennent, je trouve qu'elle est très forte, cette phrase de Michel, surtout dans une terre comme la France, qui a été une terre d'immigration très forte, et où parfois, cette histoire-là, elle a été un peu enterrée. C'est aussi un gros enjeu de ces biographies.
Oui, c'est à la fois savoir d'où viennent les anciens, les ancêtres. Et je pense qu'il ne faut pas se tromper aussi, c'est-à-dire que souvent, faire l'histoire de la famille ou d'un membre de la famille, c'est aussi faire une histoire personnelle, c'est-à-dire s'inscrire à un moment dans une histoire familiale, dans la lignée, c'est-à-dire selon l'âge, c'est, on est aussi un maillon de la chaîne. Et l'ambiguïté de l'histoire de la famille, et donc ça a été très bien dit déjà sur cette idée de je pensais parler de mon père, mais en fait c'est ma grand-mère, je parle de ma grand-mère et moi. Donc voilà, donc l'histoire d'un proche est souvent articulée avec mon histoire à moi, et savoir d'où vient la famille, c'est savoir d'où je viens.
Isabelle Millet, quand on vous contacte pour une biographie, en général, c'est qui d'ailleurs ? C'est pour écrire la biographie d'un ancêtre, enfin, d'une grand-mère, d'un grand-père ? C'est pour écrire la sienne ? Comment ça se passe en général ?
C'est 50-50, je dirais. Mmh. C'est soit les narrateurs eux-mêmes qui ont envie de transmettre et d'écrire leur vie, soit les petits-enfants ou les enfants qui me contactent en me disant « on a une curiosité ». Alors, je pense à toutes ces personnes issues d'immigration et qui ont beaucoup de questionnements justement sur leur enfance, sur leur passé, sur l'enfance de leurs parents, sur l'histoire de leur famille. Et j'ai notamment été contactée par une jeune femme qui était infirmière et dont les parents étaient portugais. Ils avaient été chassés pendant la dictature de Salazar. Et c'est des gens qui ont passé la frontière avec une valise, qui ont eu une vie très difficile au début et puis qui s'en sont sortis, qui ont très bien élevé leurs enfants, qui ont été pleins d'amour, qui ont été pleins de reconnaissance aussi envers la France de les avoir accueillis. Et elle me disait, je connais mal leur histoire parce que j'ai peur de leur faire de la peine si on va aller fouiller dans leur enfance. Et elle m'a dit, est-ce que vous pouvez, Isabelle, s'il vous plaît, raconter leur histoire ? Donc là, c'était un petit peu particulier parce que c'était une biographie de couple, ce qui peut donner d'ailleurs des situations un peu amusantes parce que, alors au début, je
les souvenirs de
chacun, voilà. Oui, je fais monsieur et madame, et puis après, au bout d'un moment, ils se rencontrent. Et puis, non, tu n'avais pas cette robe-là, mais non, on s'est rencontrés dans tel endroit, mais non, dans tel endroit. Donc, c'était assez amusant. Mais plus sérieusement, c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup de demandes de personnes issues de l'immigration, que ce soit espagnole, j'ai fait un juif tunisien, j'ai fait une personne dont les grands-parents avaient vécu le génocide arménien, j'ai fait une personne dont les parents avaient aussi passé la frontière hongroise avec une valise. Et donc, je trouve ça très, très important. Ça m'a beaucoup touchée d'être contactée par des personnes avec ce profil-là, qui avaient beaucoup de choses à dire.
Anissa Rami, je crois que vous avez été contactée après la diffusion de votre podcast par beaucoup de personnes qui avaient une histoire similaire à celle de votre papa. C'est vrai que ça permet aussi une valorisation de ces histoires d'immigration, ces trajectoires qui n'ont pas toujours été faciles et qui ont longtemps été enfouies, pour ne pas dire un peu méprisées.
Oui, je pense que moi, c'était important pour moi aussi que ce soit moi qui raconte cette histoire ou que ce soit nous qui la racontions, parce qu'il y a aussi des fois beaucoup de... On parle de nous sans qu'on soit dans les histoires. Et je pense que là, moi, c'était important de me dire j'ai la possibilité en tant que journaliste de le faire. Et au début, je voulais le raconter un peu comme ça. Je savais pas trop où le proposer. Et quand Arte Radio a accepté, je me suis dit voilà, là, on a un endroit, ça va être inscrit. Il y a une maison, entre guillemets, qui dit cette histoire doit être écoutée par un plus grand nombre. Et voilà, cette histoire de l'immigration, cette histoire de la colonisation, pour moi, elle était vraiment importante parce que mon père était militant au Maroc, parce qu'il a milité aussi quand il est arrivé en France. Et cette histoire aussi des 01, du coup, les personnes qui sont arrivées en France sans date de naissance et que la France leur a donné 1er janvier comme date de naissance, en fait, on la connaissait de nos parents. Ils nous ont dit on n'a pas notre date de naissance et on ne s'était jamais posé la question. Et je trouvais que c'était important aussi de la raconter aux personnes qui ne connaissent pas, qui se disent ah, c'est vrai que j'ai toujours eu une date de naissance. Moi, mon père, il ne me souhaitait jamais mon anniversaire, je ne comprenais pas pourquoi. Donc, c'était un peu ce lien-là. Et voilà, de se dire que cette histoire, elle va disparaître avec le fait que maintenant, il y a évidemment des endroits pour enregistrer les dates de naissance. Et donc voilà, je voulais que ce soit ma patte, mon vécu en tant que fille d'immigrés qui raconte cette histoire et aussi qu'il y ait une pluralité d'histoires, justement d'Algériens, de Marocains, d'Afrique subsaharienne, qu'on puisse multiplier les histoires qui sont différentes aussi. Et ça, je pense que c'est important que ça existe.
Jacques nous appelle de Normandie. Bonsoir, Jacques.
Oui, bonsoir. Bonsoir à vos invités. Oui, c'est plutôt un témoignage. Mon père avait 96 ans quand il est décédé il y a 2 ans. Et il a donc connu l'avant-guerre, la guerre et l'après-guerre. Et c'est ma fille, sa petite-fille et son gendre, Kevin Diaz, qui ont décidé non pas de témoignages écrits, mais de vidéos. Et ils ont fait trois ou quatre vidéos qui étaient intéressantes parce qu'ils l'ont interrogé sur sa jeunesse, sur la connaissance qu'il a eue de ma mère, comment il a connu ma mère, et des choses que j'ignorais évidemment, puisque je suis né un peu après, et un peu la suite. Et c'était vraiment intéressant, c'était très émouvant, et ça nous a apporté quelque chose. Mais c'est pas tellement... Ça ne peut probablement intéresser que nous, mais...
Mais c'est déjà beaucoup.
Oui, c'était pas mal.
Merci beaucoup pour votre témoignage, Jacques. Elsa Ramos, dans votre livre qui est un réel guide pour pouvoir réaliser une biographie, vous le dites, en fait, on peut s'en emparer sous le format qu'on veut. Alors, on parle podcast radio avec Anissa Rami, mais on parle évidemment biographie écrite, qui est votre cœur de métier, Isabelle Millet. Ça peut prendre différentes formes, comme nous dit Jacques, en vidéo, par exemple, ça marche très bien aussi.
Oui, oui, tout à fait. Et après, le principal aussi, c'est assez rapidement, dès le départ de l'enquête, de savoir vers quoi on tend, vers quel format on tend. Mmh. Puisque, effectivement, à un moment, faire des vidéos, ça veut dire aussi avoir un caméscope filmé. Et puis, ce qui est revenu aussi, c'est la question de la parole et de l'échange. Et le dictaphone est fondamental aussi, à la fois pour garder la voix, mais à la fois pour garder l'ensemble de ce qui est dit, parce que sinon le risque c'est de trier, de sélectionner. Mm-hmm. Celui qui écoute, quel qu'il soit, hein, que ce soit un proche, un biographe qui connaît pas nécessairement la personne, c'est la question de la sélection que fait aussi la personne qui écoute. Mm-hmm. Donc voilà, donc c'est vrai qu'il y a des outils qui sont à penser dès le départ, et le format est à fermer, est à penser, parce que c'est aussi la question du fil conducteur et du scénario.
Nous avons Christine qui nous écrit via WhatsApp, atteignant la soixantaine et plus, j'ai envie depuis plusieurs années d'écrire sur les petites gens qui étaient mes aïeuls, des vies simples et laborieuses, mais écrire non pas sur leurs difficultés mais sur les belles choses qu'ils ont vécues, c'est important je trouve dans la noirceur toujours plus sombre de l'actualité. Isabelle Millet, il y a aussi ça, c'est lumineux finalement une biographie, on en garde aussi beaucoup de belles choses.
Bien entendu, on essaye de n'en garder que les belles choses, parce que même quand il y a eu des événements douloureux dans une vie, et Dieu sait qu'il y en a dans toutes les vies, on essaye toujours de rebondir, enfin la biographe essaye de rebondir en essayant de comprendre quels enseignements ces personnes en ont tiré, justement comment elles s'en sont sorties, comment elles ont surmonté ces épreuves, et au final l'idée c'est quand même de laisser un message d'optimisme, d'espoir, avec beaucoup d'émotion, et de ne pas tirer la personne vers le bas, mais au contraire de lui faire comprendre combien elle a vécu des choses formidables et que toutes les vies sont formidables.
Oui, parce qu'on parlait notamment avec Anissa Rami d'aller gratter un peu sur les sujets qui peuvent être douloureux, mais ça permet aussi de faire éclore des très belles choses, ou au contraire d'aider à cicatriser certains points,
je
si c'est nécessaire.
Je pense que c'est important, ouais. Oui, c'est important d'aller gratter parfois. Alors avec beaucoup de respect, toujours, évidemment, si je pose une question et que je sens qu'elle est dérangeante et que la personne, elle a les larmes aux yeux, je ne suis pas sadique, je ne vais pas du tout continuer sur ce sujet.
Oui, on n'est pas tenu de tout raconter
non,
dans sa biographie, rappelons-le.
Non. Alors, en revanche, par rapport à ce que disait Elsa Ramos, effectivement, on peut faire une sélection de ce qui nous est dit, mais moi, je peux vous assurer que si j'omets de parler de quelque chose qui m'a été dit lors de mes entretiens, la personne me dit « Donc Isabelle, vous n'avez pas parlé de ça ». Donc, bon, moi, je suis
comment
très transparente.
Comment vous procédez alors? Vous enregistrez les entretiens?
J'enregistre, évidemment. Je rentre chez moi, je décrypte tout ça, je mets en forme. Je ne romance pas, mais disons que je fais en sorte que ce soit agréable à lire pour toute la famille. Et ensuite, je renvoie l'exemplaire à la personne en question, ou je lui apporte lors de la séance suivante. Et elle corrige, elle me dit « Ah non, non, ça, finalement, ça va faire de la peine à Suzette, il faut l'enlever. Ça, ah ben ça, oui, j'aurais peut-être dû voulu insister. Ça, j'ai pas assez parlé d'un tel. » Et puis, m'est revenu. En fait, on tire le fil, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'on part de quelque chose, on ne sait jamais où on arrive dans une biographie, parce qu'une anecdote en amène une autre, et puis tiens, je n'ai pas parlé d'un tel, et puis, ah mais voilà, j'ai retrouvé des photos, il y a une vraie impatience quand on commence cette démarche, qui est courageuse, hein, parce qu'il faut quand même avoir du courage et de l'énergie pour entamer une biographie, mais quand on la commence, on n'a jamais envie de s'arrêter, on est toujours à... ils m'attendent avec impatience, enfin, ils sont derrière la porte, quand je sonne, je sais que la porte va s'ouvrir tout de suite.
Isabelle nous attend au standard, bonsoir Isabelle.
Bonsoir à tous.
On vous écoute.
Vous parliez justement de dire c'est important pour les gens de savoir d'où ils viennent. Et depuis 2014, je fais depuis de la généalogie, mais maintenant je commence à la faire à rebours. Et ce qui m'intéresse de plus en plus, c'est pas d'où viennent les gens, mais où ils ont disparu, où on n'a pas trace d'eux, où on les a perdus, où le fil s'est dénoué. Parce qu'en fait, j'ai commencé la généalogie un peu grâce aux souvenirs de mon arrière-grand-mère qui m'a longtemps élevée, que je connaissais bien, qui était une réfugiée de Belge flamande de la guerre de 14-18. En fuyant avec sa famille en 1915. En 1916, elle faisait des obus à Villeneuve-Saint-Georges. Elle me racontait avec son accent impayable que les bonnes sœurs qui les faisaient dormir sur la terre battue dans des caves étaient infectes avec eux et que les réfugiés belges, les pauvres, étaient très déconsidérés. Et elle avait des souvenirs oraux puisque tout avait brûlé dans l'invasion. Mmh. Donc c'était précieux, mais tout a été perdu dans des cassettes qu'elle avait enregistrées. J'ai repris 30 ans plus tard la généalogie. Et là, au début, on recherche justement les gens, c'est facile dans les registres, avec leur métier, leurs enfants, etc. Et puis on tombe sur des zones d'ombre. On n'y fait pas attention au départ. Et de plus en plus, c'est ça qui a commencé à m'interpeller. Mais pourquoi ils ont changé de nom? Pourquoi on n'a pas de trace d'elle? Pourquoi dans la fratrie, c'est le seul qu'on retrouve pas. Et ces gens, petit à petit, j'ai commencé à m'y attacher, à les retrouver, à renouer des fils, et je suis tombée sur des histoires de plus en plus prenantes de gens qui étaient peut-être des histoires qui paraissaient peut-être à l'origine tristes ou sordides ou poignantes, mais il y avait toujours une force de vie, une force de résistance, parce que ces gens voulaient pas être oubliés, voulaient pas disparaître. Parfois, il y avait qu'un nom, il y avait rien d'autre, à peine un début de piste, et il m'a fallu y revenir peut-être 10 ans plus tard ou faire preuve de beaucoup de ténacité ou trouver des nouvelles ressources plusieurs années après. Et je les rends leur famille, je contacte des gens, je leur dis, ben voilà, vous aviez perdu peut-être dans votre arbre un tel qui était breton, qui est devenu instituteur dans le château du village de mon grand-père. Et les gens sont toujours étonnés et reconnaissants en général de ce fil, de cette idée, de cette histoire dont ils n'avaient pas connaissance. Et c'est... Ça me valorise beaucoup parce que j'ai l'impression de rendre de la dignité à ces gens qui ont... Une fois, c'est un cheminot. En 1923, il est mort, Saint-Ferblantier, qui allait de ferme en ferme, qui avait plus de famille. Personne ne savait son histoire. On l'appelait juste Corbin. Et en fait, j'ai découvert d'où il venait. Je suis rendue un peu une famille, des parents. C'était quelqu'un qui avait beaucoup impressionné mon grand-père et qui n'avait pas d'histoire. Et je pense souvent à lui, bizarrement. Et je pense à Alfred Bajou, qui a été abandonné à 6 mois. Alors, il faisait 1m11. Dans les fiches des registres militaires, on trouve des choses incroyables. Refus pour des fautes de taille. 1m11. En fait, j'ai découvert qu'il existe un anisme de psychosocial, une carence affective peut provoquer cela. Et ses enfants en nourrissent, je m'y intéresse de plus en plus. Et lui, il est devenu fondeur chez Chappé, qui est une entreprise très connue au contour du monde. Il a eu un fils, il s'est marié. Son fils est mort au bout d'un mois à la terre de 14. C'est des choses comme ça.
Merci beaucoup Isabelle pour votre témoignage. Il y a déjà beaucoup de choses. On va peut-être solliciter Elsa Ramos là-dessus. Il y a notamment cette idée que la petite histoire rencontre la grande, en fait. Et on apprend aussi beaucoup de choses sur notre histoire collective quand on s'intéresse à ces biographies familiale et somme toute assez ordinaire.
Oui, alors on l'a entendu à plusieurs reprises, notamment sur la date de naissance, enfin au 1er janvier. Et puis c'est aussi, parfois la question se pose de dire, ben voilà, mais moi, mes proches ne sont plus là, j'ai des bribes, comment faire pour... Et là, c'était dans ce témoignage, c'était très bien dit. Donc c'est toute la démarche d'enquête de comment aller creuser ces zones d'ombre. Et là, effectivement, la petite histoire rencontre la grande histoire. Et c'est par la grande histoire aussi qu'on peut avoir des éléments sur des personnes ordinaires ou des petites gens, pour reprendre un peu les termes qui ont été utilisés. Et ça, effectivement, faut pas l'oublier, parce que les deux se nourrissent, en fait. Voilà, un peu en vase communicant, les deux se nourrissent.
France Inter. Le téléphone sonne.
Et au téléphone sonne ce soir, on parle biographie familiale, ces biographies de votre grand-mère, votre grand-oncle, les histoires qu'on peut raconter autour de ça. Nous sommes avec Isabelle Millet, qui est biographe, avec Anissa Rami, qui a réalisé un podcast avec son père, papa Ténécan, et avec Elsa Ramos, qui est sociologue spécialisée dans la famille et autrice de Un anthropologue dans la famille, qui est un manuel technique finalement sur comment réaliser la biographie de vos proches. Nous sommes également en ligne avec Harold, qui nous appelle de Paris. Bonsoir Harold.
Bonsoir. D'abord, comme tout le monde, j'ai envie de dire merci pour la qualité de l'information impartiale à France Inter.
Merci beaucoup.
Rachida est une vilaine personne.
Merci à vous.
Mais dans le sujet, j'ai 57 ans et j'ai 2 enfants. Il y a 15 ans, j'ai enregistré 10 heures de voix, de vocales avec mon père. Il faut savoir que mon père était quelqu'un d'assez romanesque, il a été marié 8 fois. Nous sommes, avec ma sœur, ses seuls enfants, et il nous avait abandonnés. Et j'ai fait ces 10 heures d'enregistrement, j'avais très confiance, parce que je faisais de la radio en interviewant beaucoup de gens, en fait sur France Inter, mais c'est l'histoire ancienne. Et donc je suis parti là vraiment avec une nécessité et une confiance. Ces 10 heures d'enregistrement qui se sont très bien passées, où j'ai appris énormément de choses sur lui, et sur le divorce cruel avec ma mère, et sur l'abandon donc des enfants, ces 10 heures, je n'ai jamais pu les réécouter. Je n'ai jamais pu les réécouter, et pourtant j'encourage tout le monde à faire la même chose, parce qu'il est mort depuis. Mais je n'ai jamais pu les réécouter parce que ça m'a plongé, en faisant cet entretien, dans une profonde dépression pendant assez longtemps. 5 ans après, il y a 10 ans, j'ai fait la même chose avec ma mère, qui est vivante, toujours. Ma mère qui a eu je dirais, sa vie brisée par ce divorce. Et j'ai aussi appris plein de choses parce que même si je suis proche de ma mère, etc., elle m'a élevé avec sa mère. Quand on met un cadre, on permet à l'autre de parler plus. Mm-hmm. La vidéo, pour moi, c'est trop lourd. J'écoutais ce que disaient les auditeurs précédents. Pour moi, l'écrit, c'est trop compliqué. C'est l'audio, c'est la voix qui est facilement transmissible et qui est aujourd'hui quelque chose que les jeunes générations écoutent beaucoup sur les podcasts. Et parce que tout ça, ça a été fait pour mes enfants. Mm-hmm. Tout ça, vraiment. Je trouve que le monde va mal, mais nous pouvons le rendre meilleur pour nos enfants en leur transmettant ce qui est en fait leur histoire, pas l'histoire d'autres gens.
Merci.
Voilà.
Merci beaucoup, Harold, pour votre témoignage. Effectivement, on parle de voix et on parle de radio. Alors, on est à la radio, donc on ne va pas dire qu'on n'aime pas ça. Mais Anissa Rami, c'est vrai qu'il y a une puissance aussi quand on réécoute, que ce soit le podcast avec votre papa ou j'imagine les enregistrements que vous avez. Il y a quelque chose d'assez fort là-dedans.
Oui, franchement, j'ai 30 heures d'enregistrement.
Vous poser la question, oui.
Entre la France et le Maroc, donc ça a été vraiment dur de choisir. Mais ce qui est intéressant aussi quand on interroge notre famille, c'est qu'il y a plein de choses, comme mon père parlait, je savais déjà que je ne garderais pas. Ou il racontait des choses intimes dans une famille, intimes mais dans des embrouilles de famille, entre guillemets. Et des choses où je me suis dit, ça ne va pas forcément parler à des gens. Donc il y a plein de choses à garder dans l'audio. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté où... la personne se sent libre de raconter sans faire attention à son image, sans aussi, moi je me dis quand je suis ma famille au Maroc, comment j'ai envie de la montrer ou pas. Donc il y a quand même beaucoup de questions à se poser quand on fait de la vidéo. Donc je pense que c'est vrai que je suis vraiment contente d'avoir pu le faire en audio parce que c'était pour moi le plus pertinent. Et je voulais juste rebondir sur quelque chose parce que tout à l'heure j'ai oublié de vous répondre sur la réception. Parce que c'est vrai que j'ai eu énormément de retours de personnes qui disaient en fait moi aussi j'ai envie de parler à mes parents et je sais pas comment le faire. Mais j'ai fait un premier pas en leur envoyant mon podcast par exemple. En disant, regarde, cette famille maghrébine a parlé. On peut essayer de parler. Donc, ce qui est intéressant, c'est que aussi nos histoires, elles peuvent être des outils à partager aux autres, à se dire, ah, mais on m'a dit, je l'ai écouté avec ma tante, je l'ai écouté avec ma grand-mère, mon grand-père, et ça les a émus. Donc, je pense que ça aussi, c'est important comme outil. Et c'est aussi briser le silence. Il y a beaucoup de personnes qui disaient, en fait, il y a beaucoup de silence dans nos familles, beaucoup de non-dits. Et le fait d'entendre cette histoire, ça permet de se dire, on peut parler, d'autres ont parlé et on peut nous aussi faire ce pas en fait.
Oui, parce que vous, votre podcast, il a eu vocation à être diffusé et donc à être écouté par le plus grand nombre. Mais on a par exemple Philippe qui nous écrit via WhatsApp en disant « J'aimerais écrire ma biographie qui implique forcément mes parents et mes grands-parents. Mais ma question est, qui peut être intéressé par de tels livres ?» Isabelle Mie, en fait, le cercle familial, c'est
mais
déjà
oui,
beaucoup.
Déjà Philippe lui-même apparemment. Et puis ses enfants, ses petits-enfants, ses neveux, ses nièces, ses amis potentiellement. Une autre histoire familiale, elle intéresse tout notre cercle proche, et je pense que s'il a envie de le faire, il faut surtout qu'il le fasse. Et je voulais juste rebondir sur ce que disait tout à l'heure Elsa Ramos sur la petite histoire dans la grande histoire. Moi, j'essaye beaucoup d'aller chercher ça aussi, parce que finalement, c'est ça qui va nous construire aussi, c'est de savoir comment nos grands-parents ont vécu des épreuves. Je peux vous donner quelques exemples. J'ai un monsieur qui avait fui l'Est de la France pendant la Deuxième Guerre mondiale avec ses parents. Il était tout petit, c'était un gamin de 4-5 ans. Alors évidemment, la maman a dit on part tout de suite en pyjama, en chaussons, ils sont montés dans la voiture. Lui, il n'avait pas de jouets, c'est une famille très modeste, il avait juste une boîte à chaussures et c'était son jouet préféré. Donc il monte dans la voiture, il fuit, il faut imaginer qu'il fuit quand même sous les bombardements des Allemands, que de temps en temps on doit s'arrêter pour se jeter dans le fossé, qu'il y a le matelas qui ne sert absolument à rien sur le toit de la vieille voiture. Et puis, comme tous les enfants du monde, ceux qui nous écoutent dans les embouteillages le savent, ils étaient en train de se disputer en voiture. Et là, le père a dit, ça suffit, il a chopé la boîte à chaussures et il l'a jetée par la fenêtre. De cette guerre, ce petit garçon a regardez cette anecdote qui fera certainement plaisir à ses petits-enfants. Il y en a un autre, il était toujours pendant la Seconde Guerre mondiale, à Lyon. Pareil, les sirènes, la nuit, il faut imaginer, les parents qui réveillent les enfants, ils vont se cacher dans le tunnel du funiculaire à Lyon. Et moi, je lui dis, mais ça devait être terrible, vous deviez avoir peur, c'est horrible. Il me dit, ah non, moi, je regardais les funiculaires et je voulais juste être conducteur de funiculaire plus tard. je peux vous assurer que quand ces petits-enfants ont lu ça, ça les a fait beaucoup rire et que cette petite histoire dans la grande, elle est aussi très, très importante.
Nous avons Antoine qui nous écrit via WhatsApp qu'il a passé plusieurs mois en 2015 à enregistrer les souvenirs de la vie de sa grand-mère Michèle, et elle m'a raconté sa vie militante, ses engagements pour la décolonisation de l'Algérie, contre le nucléaire, contre la militarisation du Larzac ou pour la libération de la Palestine. J'ai retranscrit ces bouts de mémoire dans un petit recueil qu'on a ensuite distribué à notre famille et à ses proches. Elsa Ramos, il y a ça aussi dans la biographie, non, la transmission des valeurs familiales, ou en tout cas de ce qu'a fondé parfois certains engagements politiques ou autres.
Alors oui, la transmission des valeurs familiales, mais ce qu'on a entendu aussi à plusieurs reprises avec le disciple, c'est l'audible. Et dans la transmission se pose la question de à qui ? Qui va lire, qui va écouter, qui va visionner ? Et l'un des témoins là, a parlé à juste titre aussi sur le fait qu'il ne pouvait pas réécouter. Et je pense qu'il y a l'audible pour soi et l'audible pour la paix de la famille. Souvent, pour la paix de la famille, il y a des choses qui ne doivent pas être dites. Donc la transmission, alors il y a effectivement des valeurs qui peuvent être un petit peu emblématiques, etc., louables, partagées, communes. Donc ça, c'est une chose. Et il y a aussi la transmission avec la question de qui va lire, quoi. Enfin, qui va être le destinataire et jusqu'où je peux tout dire. Enfin, voilà.
Mmh. Nous avons Sophie qui nous a envoyé une note vocale. On la découvre avec vous.
Quand on est proche de sa famille, je trouve ça important effectivement de célébrer et de fêter ça à travers un travail biographique. Moi, je m'étais drôlement intéressée au Grandma's Project, qui consistait à filmer sa grand-mère pendant qu'elle était en train de cuisiner sa recette fétiche phare, celle avec laquelle on avait grandi. Et lorsque ma maman est tombée malade, le réflexe que j'ai eu, c'était de faire ça, en fait, de filmer nous deux en train de reproduire les recettes qui ont rythmé notre vie, parce que c'était la nourriture, c'était notre manière de nous dire je t'aime, et du coup c'était notre petite biographie gustative à nous, et je trouvais que c'était un bon point d'entrée dans son intimité et un moyen de célébrer une relation.
Effectivement, le Grandma's Project auquel fait référence Sophie, c'est cette web-série qui avait été collaborative et qui avait invité qui voulait à partager en vidéo les recettes avec sa grand-mère. La cuisine, la notion de recette et de saveur, Elsa Ramos, c'est un des conseils ou une des portes d'entrée possibles quand on veut démarrer une biographie que vous conseillez dans votre ouvrage ?
Mais oui, tout à fait, parce qu'il y a la question des sens. Alors, il peut déjà y avoir les objets, l'objet, le cahier avec les recettes. Donc, ça, c'est une première chose. Et puis ensuite, effectivement, le goût, les odeurs, et qui aident puissamment à se remémorer, à faire revivre les souvenirs. Donc, c'est vraiment des éléments qu'il faut aller chercher, puisqu'on entend bien que dans l'enquête, ce sont les zones d'ombre, que ce soit dans l'indicible ou que ce soit aussi dans la perte, de certains souvenirs. Et là, le goût, les gestes aussi, on a les savoir-faire, on parle de transmission, là aussi, le physique se transmet. Et en tout cas, ce sont des outils pour faire travailler la mémoire et faire revenir des scènes, des anecdotes, du vécu. Donc c'est puissant. Voilà. La question des sens, que ce soit au niveau des yeux aussi, de ce qu'on peut regarder, la musique. Donc les sens, ils sont fondamentaux dans ce qui peut être mobilisé quand on raconte et quand on se raconte.
Nathalie nous attend au standard. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir.
On vous écoute.
Eh bien écoutez, moi j'ai eu la chance de rencontrer Isabelle Millet pour mes parents. Elle a gentiment tout à l'heure parlé, je crois, de moi et de mon papa et de ma maman qui sont arrivés donc du Portugal.
Bonsoir Nathalie.
Bonsoir. Vous allez bien ?
Oui, ça va, merci.
Les retrouvailles
merci beaucoup de témoigner ce soir, je suis très surprise.
Ouais, voilà, moi aussi j'ai été surprise. Donc ça a été une rencontre qui a été formidable, c'est-à-dire que moi j'avais vraiment ce projet de garder un maximum de souvenirs de mes parents, qui étaient donc la première génération à arriver en France, qui sont arrivés de façon totalement séparée, puisqu'ils se sont rencontrés par la suite en France. Et je trouvais pas le moyen, ni le temps, en fait, de pouvoir les regrouper, de passer ce temps à leur poser des questions. Et finalement, j'ai eu la chance de croiser la route d'Isabelle, qui m'a beaucoup aidée du coup à créer ce projet. Et après, je les ai laissés en fait tous les trois. et ce qui leur a permis de dire ce qu'ils avaient envie de dire, de raconter ce qu'ils avaient envie de raconter. Et ça m'a beaucoup fait sourire parce que effectivement, ils n'étaient pas toujours d'accord sur les dates.
Et est-ce que vous avez été surprise du résultat au final ?
Moi, j'ai été extrêmement surprise. En fait, c'est comme si Isabelle me faisait un cadeau de me dire « Voilà, Nathalie, je te rapporte l'histoire de ta famille. » Et c'est ce que je disais, mes enfants aussi, mes enfants qui ont 17 et 13 ans, ont été encore plus surpris et plus touchés que moi, puisqu'il y a une vraie prise de conscience de se dire que nos grands-parents ont été des enfants. Et de voir les bêtises qu'ils ont pu faire aussi. Donc ça a été vraiment quelque chose de formidable que je ne regrette bien sûr pas du tout. Et comme je disais tout à l'heure, c'est que c'est un livre qu'on garde tous en fait sur notre table de chevet et qui est propice à redécouvrir à n'importe quel moment de l'année et qu'on relit et puis qu'on peut venir compléter après par la suite. Hein. Des fois on lit des choses, donc c'est extraordinaire et c'est vraiment quelque chose que je conseille à tout le monde.
Merci Isabelle, beaucoup merci Nathalie. Encore. Merci à vous pour ce témoignage. C'est la fin de cette émission, mais on va laisser rapidement le dernier mot à Isabelle. C'est tout le sens de
cette biographie. Voilà, c'est pour ça que je fais ce métier. Merci à tous. Merci Nathalie. Merci à tous ceux qui me font confiance.
Ça fait du bien finalement ce genre de.
Moi j'ai les larmes aux yeux là. Vraiment.
Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, Isabelle Millet. Vous êtes biographe, Anissa Rami, autrice du podcast Papa Ténécan qu'on peut réécouter sur la plateforme Arte Radio. Merci à Elsa Ramos, sociologue, spécialiste de la famille. Vous êtes maîtresse de conférence à l'Université Paris-Cité. Et puis je rappelle surtout le titre de votre ouvrage pour quiconque voudrait réaliser la biographie de ses proches, Un anthropologue dans la famille, mener une enquête dont vos grands-parents sont les héros. C'est paru chez Buchet-Castel. À la technique du téléphone sonne cette semaine, il y avait Fabrice Desmaz et Philippe Duclos, Marie Potier et Sofiane Aktib au standard pour vous accueillir Louise et Awa, merci à elles. Et puis le téléphone sonne ne serait pas possible sans le travail de préparation de Nathalie Poitevin et Laura Dumas cette semaine et la précieuse documentation de Simon Bardi. La semaine prochaine, c'est Élodie Forêt que vous retrouverez à la présentation de l'émission. Quant à moi, je vous souhaite un très joli mois d'août. Dans un instant, ce sera le retour des infos de 20h. Mais avant cela, la question des petits bateaux.
Bonjour, je m'appelle Camille et j'ai 7 ans et j'aimerais savoir comment se forment les cauchemars.
Voilà une vaste question, comment se forment les cauchemars ? La réponse, elle, c'est après le flash.